Alors, le 6 avril, comme tu le disais, la commission des lois du Sénat a étudié la loi numérique et a supprimé, entre autres, les amendements proposant la création d'un système d'exploitation souverain. Avec nous pour en discuter, au bout du fil, Bernard Benhamou, le secrétaire général de l'Institut de la souveraineté numérique et délégué aux usages de l'Internet au ministère de la Recherche de l'Enseignement supérieur.
CPU, carré et petit utile.
Monsieur Benhamou, bonjour, je vous ai entendu parler malgré notre virgule, comme remarque.
Non, j'allais juste préciser que les fonctions de délégué auprès du ministère de la Recherche étaient mes anciennes fonctions.
Ah, d'accord, bon, alors il va falloir mettre à jour plusieurs sites d'information,
d'information d'importance nationale, comme Wikipédia
et à France Inter.
C'est pas toujours juste.
À France Inter ou France Info, d'ailleurs, qui donnent la même information. Donc,
mais c'était vrai, mais ça ne l'est plus.
C'était vrai depuis combien de temps qu'on
J'ai quitté mes fonctions en début 2014, donc ça fait quelques temps.
Ah oui, d'accord, ok. Mm. Ok, et ben, on ira faire un tour sur Wikipédia pour modifier tout
pour
ça.
Pour modifier la chose.
Bon, en tout cas, cette décision de la commission des lois, est-ce qu'elle enterre l'OS souverain ? Première chose.
Il est difficile de le dire parce que dans le système législatif français, a priori, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot sur les textes. Mmh. Donc, en théorie, j'aurais tendance à penser que c'est peu probable que cet amendement refasse surface. Je préciserai d'ailleurs, parce que vous avez dit effectivement qu'il prévoyait la création d'un OS souverain. Non, il prévoit la création d'un commissariat à la souveraineté numérique dont le but serait d'étudier la faisabilité d'un OS souverain.
Oui, mais justement, la commission en elle-même ne va pas être supprimée, mais c'est cette mission d'étudier la création
Les deux missions clés, effectivement, et l'OS souverain d'un côté et la cryptographie, donc le fait de créer des outils de chiffrement par l'État, ces deux questions-là ont été remises en cause.
Oui. Donc en fait, en l'État, on va créer un commissariat, mais qui n'a plus de mission.
C'est un peu l'idée.
C'était avant ou après la création d'une commission sur les commissions Théodule de l'Assemblée nationale ?
Je ne saurais dire. mais de fait, tout l'écosystème numérique a quasiment fait une levée de bouclier suite à cet amendement, en faisant remarquer, comme vous le disiez dans votre introduction, que ça existait déjà, que c'était méconnaître l'existant, que c'était méconnaître la réalité industrielle par rapport à cela, et que l'issue d'un possible projet dans ce domaine serait plus qu'incertaine, elle serait quasiment vouée à l'échec, puisque le pilotage par une structure publique d'un projet aussi faramineux, vous l'estimez à plusieurs milliards d'euros, et c'est clairement ça. D'abord, l'État n'en a pas à l'heure actuelle les moyens, et deux, ce serait infiniment risqué dans le paysage industriel tel qu'il se présente.
Donc c'est une bonne chose d'avoir enterré cette absurdité, c'est ce qu'on lit un peu partout.
C'est une excellente chose que des sénateurs aient pris la peine de revenir sur un travail qui avait manifestement été hâtivement rédigé. Mmh. Et sur le principe, ça peut paraître sympathique, comme vous le disiez, pourquoi pas ne pas dépendre de grands acteurs américains dans ces domaines. Mais le problème, c'est qu'il faut le faire avec des moyens et une stratégie, et pas effectivement de manière purement défensive, en disant « ils ont fait ça, nous faisons la même chose ». Ça a été fait il y a des années, ça a été fait en 2003, pour un moteur qui se voulait être le concurrent de Google, qui s'appelait Quaero à l'époque, dont vous n'avez peut-être pas entendu parler, et qui a lui aussi fait couler beaucoup d'encre, et surtout beaucoup de subventions publiques, pour au final n'être qu'un moteur parmi beaucoup d'autres dans le secteur. Donc c'est vrai que il serait dommage de ne pas tirer les enseignements du passé, et c'est donc ce qu'ont fait les sénateurs, on ne peut que les en remercier.
Comment on explique quand même que des députés aient pu proposer ça ? C'est juste de l'empressement, le fait qu'ils soient débordés, et pourquoi pas une bonne idée sans creuser ? Ou ça veut dire plus de choses ?
Ça montre beaucoup de choses. Ça montre que on a un déficit de maîtrise et de culture technologique au sein des représentations politiques, et pas que parmi les députés, c'est vrai, de beaucoup de patrons d'exécutifs locaux, c'est vrai de beaucoup de responsables même d'administration, et dès qu'on rentre un peu dans des domaines un petit peu techniques, un peu complexes, évidemment, on sent ce manque de culture, or on le voit bien pour les temps qui viennent. Il faudra absolument un rattrapage, j'allais presque dire une formation permanente pour nos élus et nos décideurs, parce que ce qui se joue là, c'est plus uniquement, comme dans le passé, vous voyez, vous citiez l'époque héroïque de Bull et du plan calcul, c'est plus uniquement la filière informatique qui se joue là, C'est pratiquement tous les secteurs, on le voit tous les jours. Et donc aujourd'hui, avoir la maîtrise des outils technologiques, c'est avoir la maîtrise des transports, de l'énergie, de la santé bientôt, de pratiquement tous les secteurs économiques.
L'OS, ce n'est pas qu'un ordinateur, mais avant d'aborder ces sujets très, très importants, ces enjeux importants, j'ai quand même une remarque, parce que je ne sais pas si... Madame Matteau a fait des recherches et s'est inspirée des modèles d'OS chinois, par exemple, ou russes, qui sont en train d'être, dit-on, mis en place. Mais
on en parlera tout à l'heure.
Si ces pays construisent ces OS souverains, pourquoi pas la France ? Mettons de côté le coût, la faisabilité dans l'idée.
Déjà, le problème, c'est la dimension. C'est-à-dire envisager qu'on puisse créer une initiative de ce genre qui soit franco-française. Alors évidemment, vous me direz, si ça peut venir de l'Assemblée nationale, la logique voudrait qu'ils se préoccupent d'abord de la France. Mais ils auraient très bien pu envisager un projet et une action de concertation avec nos partenaires européens, ce qu'ils n'ont pas fait. Et je crois que si on devait avoir une initiative intelligente sur les normes et les standards de l'Internet dans les temps à venir, comme l'ont dit à plusieurs reprises nos voisins allemands, c'est évidemment à l'échelle européenne qu'on doit s'inscrire. Ça ne peut pas être à l'échelle d'un des 28 pays de l'Union.
Mais donc un OS souverain européen, ça serait mieux ? Ça serait bien ?
L'idée, c'est de se positionner dans le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce dont nous parlons, c'est les OS, en particulier pour les terminaux mobiles, tablettes, téléphones, tablettes, smartphones. Bon. Mais dans un avenir très proche, il va y avoir énormément de travail sur les objets connectés. Et les objets connectés, ce ne seront pas des ordinateurs, comme le sont justement les téléphones ou des tablettes, ce seront des objets qui seront des objets du quotidien, ce sera des objets pour la gestion d'énergie, des objets, y compris même, j'allais dire, enfin, évidemment la télé connectée, la voiture connectée, mais au-delà, ce sera les denrées alimentaires qui auront certainement droit à des services et à des capteurs connectés, les vêtements, les bâtiments et toutes sortes d'objets. Et c'est là que l'effort industriel européen doit se situer. Et si on loupe cette porte, si on loupe ce virage, ce que nous avons connu, c'est-à-dire en gros 20 ans ou 25 ans d'Internet dans lequel les Européens ont avec régularité perdu des marchés importants, y compris donc surtout la téléphonie, on a perdu Nokia qui s'est fait littéralement désintégrer en vol par Apple et par Google, par définition, si on n'est pas présent sur ce segment-là, c'est effectivement 20 ou 25 ans qui s'inscrivent dans lesquels nous n'aurons tout simplement plus notre mot à dire dans l'ensemble des technologies.
Comment on explique qu'on en soit arrivé là alors que l'Europe est l'un des plus gros marchés consommateurs de technologies ?
L'Europe est le plus gros marché de consommation des technologies. Et comme le disent justement certains rapports parlementaires, nous sommes devenus d'une certaine manière une colonie numérique de deux autres continents, à savoir les États-Unis et l'Asie. Comment on en est arrivé là ? Il faudrait malheureusement beaucoup de temps, mais on peut dire justement que c'est ce manque de prise en compte des réalités technologiques par l'ensemble des décideurs qui a fait qu'on a laissé des grands acteurs historiques, dont les intérêts s'échelonnaient sur des dizaines d'années, en particulier les télécoms, mais pas que, prendre la main sur ces secteurs, là où on aurait dû favoriser, comme on le voit aux États-Unis, comme on le voit dans l'ensemble des économies qui fonctionnent, entre guillemets, dans ces domaines, on voit des petites sociétés qui progressivement créent des produits de rupture, comme on dit, et qui sont capables de menacer des sociétés centenaires ou même pluricentenaires parfois. Et nous, en Europe, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à faire, de faire en sorte que les petites deviennent moyennes, puis grandes, puis très grandes. Et on en a très très peu d'exemples dans ce domaine. On a BlaBlaCar en France, qui est devenu effectivement un succès international, mais c'est quasiment tout. Il y a BlaBlaCar, il y a les Toulousains, j'ai plaisir à le rappeler puisque vous êtes à Toulouse, il y a les Toulousains de Sigfox qui font des réseaux d'objets connectés qui sont particulièrement intéressants. Ils sont en passe de devenir un vrai acteur de taille mondiale. Mais vous voyez, ça limite très très vite. Il y a Criteo qui est parti aux États-Unis pour la publicité en ligne. Donc par définition, je veux dire, on n'a pas ces sociétés qui sont capables de devenir des géants mondiaux. Et c'est notre problème aujourd'hui.
Qu'est-ce qui fait qu'aux États-Unis, on a pu aider les petites entreprises ?
Voilà, aux États-Unis, il y a plusieurs mécanismes qui existent en termes de financement. Alors évidemment, vous avez des fonds beaucoup plus grands et beaucoup plus riches pour financer le développement de ces sociétés. On a un mécanisme que nous devrions avoir en Europe et que nous n'avons pas d'orientation des commandes publiques vers les petites entreprises. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, en gros, pour toute commande publique, il y a entre 15 et 18% de la commande qui est nécessairement allouée à des petites entreprises. Ça n'existe pas en France. Ça s'appelle le terme technique, c'est Small Business Act. C'est une loi qui a été passée aux États-Unis. Nous devrions avoir ça en Europe. Nous ne l'avons pas créé. Beaucoup de pays étaient favorables, mais n'ont pas poursuivi pour que ça voie le jour. Et ça nous manque terriblement parce que beaucoup d'industriels du secteur vous diraient qu'une entreprise, quand elle se crée, elle a autant besoin de clients qu'elle n'a besoin de financement. Et si elle n'a pas de client, elle ne sait pas s'orienter pour évoluer. Et donc l'intérêt, c'est que la commande publique, c'est un des leviers fondamentaux qu'on n'a pas réussi à développer dans ce domaine aussi, et il faut dire les choses, parce que on ne voulait pas, certains ne voulaient pas remettre en cause le flux financier que représente la commande publique vers les grands groupes industriels qui voyaient d'un très mauvais œil le fait qu'on puisse dire maintenant on va enlever 15 ou 20% des budgets que vous recevez de l'État pour les attribuer à des toutes petites sociétés. Et globalement, ça ne s'est pas fait. Et c'est une lacune que nous payons lourdement d'année en année.
Mais ça vaut que pour la France. Comment ça se passe en Allemagne ou en Angleterre, c'est la même chose?
Alors, le mécanisme Small Business Act n'a pas été, n'existe pas de manière globale au niveau européen, mais il est vrai qu'on a un paysage industriel, par exemple pour ce qui est de l'Allemagne, où on a beaucoup, beaucoup plus d'entreprises dites de taille intermédiaire, on dit des ETI, d'entreprises de taille intermédiaire, et donc en gros, leur mécanisme industriel, leur mécano industriel n'est pas du tout le même que le nôtre. Nous, c'est des très gros, et beaucoup de très petits. Eux ont effectivement toute une panoplie d'acteurs intermédiaires qui font que leur appareil industriel est resté très puissant et ils en profitent pour les filières dans lesquelles ils ont beaucoup investi. Mais je précise que ni l'Allemagne ni l'Angleterre n'ont produit véritablement des géants mondiaux dans le domaine d'Internet. Même si le web a été créé par un Britannique, Tim Berners-Lee, en Europe, il y a plus de 25 ans maintenant, mais il n'empêche que l'essentiel de ce qui s'est fait d'innovant et de grande taille s'est fait malheureusement aux États-Unis et en Asie, en Chine en particulier et en Corée.
Il y a quand même SAP en Allemagne, mais ce que vous êtes en train de dire, c'est que l'innovation ne se décide pas en politique et elle ne peut venir que de petites structures par rapport à des très grosses, parce que justement il y a moins de blocages au niveau de quoi, de la hiérarchie, du marché.
Je reviendrai sur votre phrase. L'innovation ne se décide pas en politique, là on en est pleinement d'accord. En revanche, elle peut s'accompagner par l'action politique. Et ce que font très bien les Américains, jusqu'à une période récente, je dirais jusqu'à ce qu'il y ait ce conflit énorme autour de l'affaire Snowden et maintenant autour du FBI et Apple, globalement, l'action du gouvernement américain était une action tout entière orientée vers l'aide à ce secteur, parce que les Américains savent qu'il est vraiment essentiel pour toute l'industrie. La preuve, c'est qu'Apple est la première, a été jusqu'à peu la première capitalisation, Google maintenant. On voit bien effectivement qu'il y a une synergie entre les acteurs publics et les acteurs privés, y compris par exemple le ministère de la Défense américain, qui aide à incuber, comme on dit, beaucoup de technologies dans la robotique, dans les nanotechnologies, etc., et qui peuvent après se dérouler dans le public et pas uniquement dans le domaine militaire. Cette stratégie de politique industrielle, les Européens ont fini par y renoncer en se disant « Laissons le secteur privé faire et il fera très bien sans nous ». On voit bien que ce n'est pas aussi simple que ça, c'est ce que je vous disais sur la commande publique. Il y a une interaction, il y a des passerelles que l'on n'a pas suffisamment fait jouer. Et globalement, il y a aussi effectivement le fait qu'en Europe, on respectait, et alors ça change très 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 lentement, on respectait davantage les énormes groupes industriels dans lesquels les gens faisaient des carrières pendant 30 ans ou 40 ans. Et aller pour un brillant chef d'entreprise, aller créer sa start-up, ça paraissait presque bizarre. C'était plus logique de rejoindre un grand groupe. Maintenant, les choses évoluent, mais là encore, c'est un changement culturel qui prend du temps.
Vous parliez d'accompagner l'innovation en Europe. On a l'exemple, par exemple, de Raspberry Pi, qui est britannique, qui est plus ou moins accusé de défiscaliser au travers de l'île de Man. Est-ce que la France, elle a peut-être pas un problème de fiscalité pour investir dans les nouvelles technologies face à des pays qui effectivement pensé ça depuis plus longtemps.
Ce n'est pas que la France, c'est là encore effectivement l'ensemble des pays européens qui ont commis des erreurs majeures en laissant par exemple l'Irlande ou le Luxembourg pratiquer ce que l'on appelle du dumping fiscal, donc de l'aide à l'optimisation fiscale pour les grands groupes, ce qui fait que l'essentiel des grands acteurs, les GAFA comme on les appelle, les Google, Apple, Facebook, Amazon et d'autres, ont leur siège dans ces pays à moindre fiscalité en Europe. Il est évident que si on veut être sérieux dans le domaine du développement de ces secteurs, il nous faudra harmoniser, ce qui veut dire désavantager l'Irlande et quelques autres pays qui ont obtenu, à une époque où ils étaient en grande crise, ils ont obtenu des avantages qui maintenant se retournent contre l'ensemble des pays européens quand on voit effectivement le manque à gagner fiscal que ça représente pour l'État français, pour l'ensemble des États européens. Donc là-dessus, on ne pourra pas faire l'économie d'une vraie grande harmonisation fiscale pour créer ce qui est maintenant pratiquement un rêve, vous voyez, une sorte de créature mythique, le grand marché unique du numérique européen, le digital single market, comme on dit là-bas. Et pour l'instant, on en est très loin.
On en est très loin et on reviendra là-dessus juste après une petite pause musicale. Et donc, juste avant la petite pause musicale, on parlait du digital market européen. Alors, et on disait que c'était un doux rêve encore. Quelle est la situation actuelle et pourquoi il faudrait aller vers ça? En quoi ça aiderait le numérique européen, en fait?
Il faudrait aller vers ça parce que quand vous développez une activité, je citais tout à l'heure Blablacar qui était venu en parler devant l'Assemblée nationale il y a quelques mois.
Donc vous avez été actionnaire, si je ne me trompe pas.
Non, pas actionnaire. Non, j'ai aidé dans le cadre des projets que je dirigeais au sein du ministère de la Recherche à leur obtenir parmi les tout premiers financements qu'ils ont eus. Non.
Je précise, il y a quand même un petit lien.
Voilà, non, tout à fait. Non, je les connais bien, mais la particularité, c'est que ils expliquaient la complexité pour eux. Ils disaient, pour nous, l'Europe, c'est 28 marchés différents, 28 législations différentes, 28 règles fiscales différentes, et donc, sans parler même des problèmes de linguistique et donc de maîtrise des différents langages, mais fondamentalement, si on ne fait pas en sorte que cette unification du droit de la fiscalité européenne sur ces questions-là soit mis en place, on continuera de se battre avec une main attachée dans le dos, pour dire des choses comme ça. Et c'est vrai que pour des entreprises qui se battent sur des secteurs extraordinairement concurrentiels, des secteurs d'une grande brutalité, c'est-à-dire qu'on voit se créer et disparaître des sociétés d'une manière extrêmement rapide, si on n'est pas en mesure de faire en sorte de les aider à ne pas se ralentir au tout départ de leur croissance, alors évidemment, les Uber, les Tesla, les Netflix, et autres Airbnb continueront de se développer au-delà effectivement de ce que l'on connaît aujourd'hui, et on voit à quel point ils sont puissants aujourd'hui.
Parce que là vous parliez de la nouvelle vague numérique américaine, est-ce qu'on est déjà mangé par cette deuxième vague et qu'il faut viser la troisième du coup?
Ben disons ce que je crois, ce que je commençais effectivement à évoquer tout à l'heure, c'est que nous devons penser à la continuité et à l'évolution des technologies. Ce dont nous parlons aujourd'hui, ce sont des sociétés qui agissent sur, en gros, les ordinateurs et les tablettes et les smartphones. Il nous faut réfléchir aux services de demain dans tous les secteurs, la maîtrise environnementale, la maîtrise de l'énergie, la santé auprès du patient, les transports et en particulier la voiture électrique, voire la voiture sans pilote. Il nous faut réfléchir à ces nouvelles générations de technologies. Et c'est vrai qu'elles sont très différentes parce qu'elles demanderont beaucoup plus d'argent au départ parce qu'il est question de matériel et pas simplement de logiciel. Elles demanderont un effort de R&D, donc de recherche et développement important. Et donc, si nous, Européens, voulons marquer notre empreinte sur les quelques secteurs clés dans ce domaine, moi j'en vois trois en gros. Je vois la santé qui va être totalement révolutionnée dans les années à venir par justement les outils de suivi et de prévention et de diagnostic que possédera la personne et qui effectivement ne seront plus dans une structure hospitalière ou dans un laboratoire médical. Et il y a donc la santé comme élément prioritaire, il y a l'énergie au sens large, y compris donc la maîtrise de l'énergie, la maîtrise environnementale, tout ce qui sera capteur permettant effectivement de mesurer et de mieux prendre en compte notre environnement, et enfin les transports avec justement la voiture électrique, la voiture sans pilote, et toutes les formes de transport qui existeront en particulier basées sur l'énergie électrique.
Mais alors comment on regagne la souveraineté européenne, on va dire, est-ce que c'est juste en proposant des services des entreprises, ou est-ce qu'il faut faire plus pour regagner...
Il faut agir à trois niveaux. Comme toujours, quand il est question d'Internet, ça ne peut pas être fait à un seul niveau, ça doit être fait à trois niveaux. Il y a trois niveaux qui sont le niveau d'encadrement législatif, forcément. Je vous parlais d'encadrement fiscal. Mmh. On pourrait parler de tout ce qui sera effectivement aide apportée par la puissance publique au développement de ces acteurs. Et donc, je vous parlais du Small Business Act, donc de la commande publique orientée. Mmh. Donc ça, ce sont des dispositifs juridiques. Il y a un autre aspect qui est l'aspect technologique, en particulier ce que nous évoquions là aussi sur les normes et les standards. Alors ça paraît très sérieux, ça paraît très technique, mais si nous ne sommes pas davantage présents, ce que rappelait d'ailleurs le vice-chancelier allemand quand il est venu en France il y a quelques mois, Sigmar Gabriel, il dit nous devons être là où s'élaborent les normes et les standards de l'industrie de demain. Si nous n'y sommes pas, les Américains l'ont fait et l'ont montré avec l'affaire Snowden, ils sont capables effectivement de créer l'ensemble de ces normes et de les dévier à leur profit, y compris les normes de sécurité et de chiffrement, donc les normes de crypto, comme on dit, qu'ils peuvent effectivement utiliser à leur profit pour après espionner, pas simplement les citoyens, mais aussi les entreprises.
En même temps, dans l'envie de l'OS souverain à la française, il y avait aussi cette envie, ce fantasme peut-être de contrôle étatique dans lequel on aurait pu rentrer pour...
Voilà. Oui, et le contrôle étatique sur la crypto, le problème, c'est que c'est aussi, et on l'a vu avec justement l'affaire du FBI et d'Apple, c'est une très mauvaise, apparente bonne idée.
Pourquoi ?
C'est le principe de la fausse bonne idée. Je vous explique. Si vous créez des backdoors, parce que le mot qui a été employé, c'est backdoor, c'est-à-dire des portes dérobées dans l'ensemble des téléphones, par exemple. Ça veut dire que des hackers, et croyez bien qu'il y en a des millions aujourd'hui, et quand je dis des millions, le chiffre est exact. C'est-à-dire qu'il y a des populations capables de rentrer dans des phénomènes de piratage qui sont vraiment massives, en particulier en Chine, en Russie et ailleurs. Vous leur donnez un espèce de chiffon rouge agité devant les yeux en leur disant « Courez, vous êtes sûr qu'à un moment donné, vous finirez par la trouver. » Et ils la trouveront. Et donc, faire en sorte que tous les téléphones qui sont utilisés par les entreprises, par les administrations, par les agences de sécurité, par les ministères de la Défense de tous les pays, puissent être progressivement attaqués et, au final, ouverts pour récupérer leurs informations, c'est la pire des choses. Je dirais même mieux. Ceux qui en parlent le mieux sont les anciens patrons des agences de sécurité américaines. Les nouveaux, c'est-à-dire ceux qui sont aux commandes aujourd'hui, sont obligés de répondre à la demande du politique, à savoir l'administration Obama. Mais ceux qui étaient auparavant à la CIA, à la NSA, au département Homeland Security, enfin toutes les agences de sécurité disent ce serait une hérésie, ce serait une absurdité totale que de créer cette vulnérabilité dans nos systèmes. Ce serait un cadeau absolu fait à toutes les mafias du monde, à tous les groupes terroristes du monde. C'est la pire des choses. Tous les experts sont parfaitement d'accord là-dessus, mais la demande politique était telle. Évidemment, l'administration Obama a dit qu'il faut aller vers la création de ces systèmes. On voit que c'est maintenant un vrai débat parce que les gens se rendent compte que ce n'est pas aussi simple que ça en avait l'air, que ce n'est pas uniquement pour résoudre telle ou telle enquête terroriste aux États-Unis, mais que ça aurait des conséquences sur le long terme. Vous voyez, il faut jamais, dans nos domaines technologiques, on dit toujours qu'il ne faut jamais substituer l'urgent à l'important. Et là, on a vraiment substitué l'urgent, c'est-à-dire la demande sécuritaire, à l'important, c'est-à-dire la protection des intérêts stratégiques de l'ensemble de nos pays, c'est-à-dire pas uniquement les États-Unis, c'est l'ensemble des pays européens, l'ensemble des pays qui utilisent ces technologies.
Est-ce que vous avez l'impression de prêcher dans le désert, malheureusement ?
Oh non, 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 justement pas. Je dirais, on a commencé par parler effectivement de cet amendement qui a été retoqué par le Sénat donc sur l'OS souverain, mais on voit bien que la prise en compte de ces questions, la simple apparition du mot souveraineté numérique, puisque notre institut a pour but justement d'aider à comprendre ces enjeux au niveau européen, tant d'un point de vue juridique que d'un point de vue technologique. Eh bien, ces simples mots, souveraineté numérique, sont montés en flèche dans l'ensemble des médias, ces 12 ou 18 derniers mois. C'est-à-dire, il y a 2 ans, personne ne comprenait même ce que signifiait ce mot souveraineté numérique. Aujourd'hui, il n'y a pas d'intervention politique qui ne revienne sur la question dès qu'il est question d'industrie, il n'y a pas d'autorité de régulation comme la CNIL cette semaine encore, qui s'est prononcée contre justement les portes dérobées, donc reprenant justement ce débat, et disant que c'était un enjeu de souveraineté numérique. Donc globalement, je dirais qu'il y a une prise en compte qui monte. Mais il est vrai, et c'est ce que nous disions auparavant là aussi, c'est qu'il faut aller très très vite, parce que les acteurs dans ces domaines évoluent et font évoluer leurs solutions extrêmement vite, et il faut une prise en compte nationale et européenne dans ce domaine pour déterminer un avenir européen où nous ne serons pas que, comme le disait justement un rapport, qu'une colonie numérique de 2 autres continents.
Il y a des exemples à suivre en Europe, je pense aux Pays-Baltes qui sont très avancés sur le numérique, plus que nous.
Absolument, l'Estonie est remarquable sur les questions de technologie, mais il n'y a pas que, je dirais que nos voisins hollandais, proches voisins hollandais, ont montré effectivement qu'ils étaient très attachés justement à ces notions de protection de leur infrastructure industrielle et donc refuser cette notion de porte dérobée et d'atteinte au chiffrement pour les entreprises, parce que les plus en danger, parce que tout le monde a parlé avec l'affaire Snowden des citoyens qui étaient écoutés, qui étaient surveillés, ce qui est un vrai problème évidemment de liberté publique, mais ceux qui ont porté plainte, ceux qui ont été le plus atteints, sont les grandes entreprises et l'ensemble des entreprises qui pouvaient se voir siphonner leurs données par le biais effectivement des grandes écoutes de la NSA. Donc par définition, je dirais qu'on a quelques pays, et en particulier l'Allemagne là-dessus, qui a créé effectivement une réglementation intéressante sur le fait que les données des citoyens européens ne pourront, enfin pardon, les données des citoyens allemands ne pourront plus être traitées en dehors du territoire de l'Union européenne à l'avenir. Mmh. C'est-à-dire, en clair, ne pas permettre que Google, Amazon, Facebook et quelques autres puissent aspirer les données qu'ils ont captées sur l'ensemble de leurs usagers et les traiter uniquement aux États-Unis sous, entre guillemets, bannière américaine. Et donc, il faudra à l'avenir qu'on ait un droit européen plus fort où on dise, nous souhaitons que l'ensemble des données des citoyens, des entreprises, des États puissent résider, c'est le terme qu'on emploie, puissent résider sur le continent européen et être traités avec nos lois, nos principes, nos valeurs de protection des libertés. Parce que ça, ce qui se joue là, c'est beaucoup plus que des principes juridiques comme ça lointains, c'est notre avenir économique, notre avenir stratégique à l'échelle des 20 ou 30 prochaines années.
C'est ce qu'on appelle le safe harbor.
C'était effectivement la remise en cause du safe harbor qui est maintenant renégocié au niveau européen et qui porte un nouveau nom, qui s'appelle Privacy Shield, le bouclier de la vie privée. Mmh. Et le problème, c'est... Non, il ne règle rien, pour être tout à fait sincère. Voilà.
On est bien avancé.
Et non, et justement, et c'est pour ça que la CNIL et sa présidente Isabelle Falco-Pirotin a eu l'occasion de rappeler qu'elle était hostile à ce nouveau règlement, ce nouveau accord, ce nouvel accord, et qu'elle voulait effectivement d'autres conditions de sécurité par rapport aux données, voire même peut-être, c'est ce que nous souhaitons, nous, au sein de l'Institut, c'est qu'on aille justement vers la logique allemande qui est de dire les données doivent résider en Europe et ne doivent pas, parce que le principe du safe harbor, c'était permettre aux entreprises américaines de rapatrier leurs données chez eux. À l'avenir, je crois qu'on ne pourra pas faire l'économie d'un règlement européen qui porte un autre nom, on appelle ça data residency, c'est-à-dire la résidence des données en Europe, pour être certain qu'elles suivent bien et qu'elles sont bien soumises à nos principes, nos lois, et pas aux lois américaines.
Donc, alors, si je résume, on était colonisé numériquement, mais on ne le savait pas. Maintenant, on l'est toujours, mais on en a conscience. Et peut-être qu'un jour, on va faire changer les choses.
C'est la base de tout. C'est-à-dire se rendre compte de notre vulnérabilité. Et c'est ce en quoi je tiens à rappeler, effectivement, tout ce que nous devons à un certain Edward Snowden. Parce qu'en prenant des risques quasiment pour sa vie, il a rendu un service inestimable à l'ensemble des pays, y compris même aux États-Unis, d'ailleurs, même s'ils ne le reconnaissent pas. Mmh. Mais il a rendu un service inestimable en permettant à l'ensemble des opinions publiques de se rendre compte de ce qui se jouait. Et ce qui se jouait, c'est leur avenir total, c'est-à-dire avenir sécuritaire, avenir privé, avenir économique, avenir politique, sur le contrôle des populations, puisque des outils comme les outils de la NSA peuvent aussi servir à contrôler l'opinion publique et à faire évoluer l'opinion publique dans un sens qu'elle n'aurait pas eu forcément si on n'avait pas eu d'informations sur elle. Donc là-dessus, je veux dire, on se doit de bien se rendre compte que là, on a une chance. Et cette chance, il ne faut pas la gâcher parce que les fenêtres de tir par rapport effectivement au numérique ne seront pas si nombreuses à l'avenir et qu'on a en gros entre 5 et 10 ans pour réorienter l'appareil industriel et technologique européen pour ne pas être effectivement soumis à un pompage massif de nos sociétés qui aujourd'hui n'ont comme espoir que de se faire acheter par Google ou par Apple pour effectivement continuer à croître. C'est un avenir qu'on peut et qu'on doit essayer de remettre en cause.
Okay. Donc vous prenez votre bâton de pèlerin et vous allez convaincre les
Absolument.
Politiques.
Absolument. Absolument.
Bon courage. Merci beaucoup, Monsieur Benamou. Au revoir.